bientôt, cette muraille devrait être rasée. En attendant, elle abrite le plus grand marché du cannabis de France.
Une tour et des blocs d'immeubles au sud de Paris, devenus en quelques mois le théâtre d'une violence quotidienne. Incendie dans les parkings, agressions et braquage d'un supermarché.
Une cité où, à force de misère, de chômage, d'insécurité et de repli sur soi, l'ordre social et moral est aujourd'hui imposé par la religion, la première pratiquée à Trappes, l'islam.
Yeah, ouais. Putain, j'en ai marre ces pantins. Ceux qui cachent la vérité, la travestissent. Je comble la ville à pantin. Crois pas que le trafic de la haine a été aboli. Car si ma rage était matérielle, ce serait un dangereux colis. J'emmerde la presse écrite, j'emmerde la presse télévisée. J'emmerde ceux qui sont sans cesse téléguidés. Car les fondations, leurs propos sont conçus en argile. Mais ça reste tout de même des manipulateurs agiles. À faire la course à l'audience, ils ont fini par déraper. Et ces enculés veulent fuck le rapper. Le niveau est tombé très bas. Entre PPD et le chef de l'État, y'a aucun débat. C'est qu'un tissu de mensonge conçu pour habiller d'une belle robe. Leur entour une loupe et leur mascarade. Du reste, elle n'est pas prête de fermer sa gueule. Mais plutôt de bouffer comme une souffle ou un amuse-gueule.
La télé manipule la radio, manipule la presse, manipule les journaux, manipule les gars, les manipules, ça les manipule. Et les informations manipule la télé, manipule la radio, manipule la presse, manipule les journaux, manipule les gars, les manipules, ça les manipule. Et les informations manipule.
Sur le tracé tracé par la justice, on marche plus droit. C'est qu'on a même plus le droit d'avoir des droits. La mondialisation, on appelle ça de l'évolution. Et une révolte qui verra au bain de sang, une révolution. J'ai cru que le journaliste respectait n'était qu'un code. Ben non, certains conflits sont passés de mode. Ceci n'est rien d'autre qu'un cri d'alerte, sans espoir, car plus personne ne veut vendre à perte.
La télé manipule la radio, manipule la presse, nous manipule les journaux, nous manipule les gars, les manipules, les manipules. Et les informations
Les nouveaux chiens de garde, le film sort donc le mercredi 11 sur tous les écrans. Il y a un héros quand même, Gilles Balbastre, Serge Halimi, Jean Gadret et Michel Naudy qui est au fond de son lit en Ariège. Il y a quand même un héros dans ce film, c'est François Bayrou quand même. Hein, c'est quand même le héros positif, c'est le seul. Ah, s'il y a un personnage héroïque dans ce film, le Bayard, le Chevalier Blanc, le Saint-Georges de votre film, c'est François Bayrou, qui tout d'un coup éclate, proteste, pointe le lien entre les médias et le pouvoir économique, devant une Claire Chazal assez désappointée, mais très pugnace.
Ça se passe en septembre 2006 et François Bayrou, qui est candidat à l'élection présidentielle, va un samedi soir, je crois, aux 20h de Claire Chazal, prendre pour cible TF1, le fait que Bouygues soit propriétaire de TF1 et que Bouygues soit l'ami de Sarkozy. Voilà. Et il va dénoncer cette accointance entre la presse et des milieux économiques puissants et ces milieux économiques avec le milieu politique. Et c'est vrai que, rassurez-vous, hein, je suis pas du tout bayrouiste et on l'est pas, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'un homme politique, dans un média national, un média comme TF1, dénonce ce système-là. Et c'est vrai que c'est assez remarquable parce que on aurait pensé que ça aurait pu être plutôt quelqu'un comme Mélenchon, Marie-Georges Buffet, voire un socialiste.
Mélenchon l'a fait aussi quand même.
Oui, mais là c'est très structuré. Je veux dire, Mélenchon l'a fait, mais là il y a vraiment une accointance posée très directe. Et surtout, c'est un des premiers à le faire. C'est ça qui est remarquable. Alors il le fait par opportunisme. Hein, je veux dire.
Est-ce qu'il a subi des représailles?
Oui, enfin ça a gueulé. Mais juste pour rappeler, c'est que dans le film, on rappelle quand même que c'est ce François Bayrou qui fait partie de la majorité, qui a privatisé quand même TF1 en 87. C'est pour rappeler qu'on peut soupçonner un peu d'opportunisme de la part de Bayrou de faire ça aussi. Voilà, c'est pour limiter quand même notre proximité avec François Bayrou. Apparemment, le lundi matin, il s'est retrouvé dans les locaux de LCI. Et à l'époque, il y avait encore Lelay qui était à la tête de TF1 et Moujotte qui était aussi à la tête de TF1 vont ruer dans les brancards, vraiment, vont le prendre pendant une heure, il paraît que les murs tremblent. El Kabbaj qui fait sa conférence de rentrée de d'Europe 1, deux jours après, va pendant au moins un quart d'heure ou 20 minutes taper sur Bayrou. On sent quand même que c'est quelque chose qu'il ne faut pas poser. C'est ça qui est intéressant. C'est surtout, encore une fois, il y a des lignes blanches qu'il ne faut pas franchir. Voilà. Et cette ligne blanche est intéressante à voir comment un homme politique l'a franchie et dans le film, on s'en sert.
On peut préciser qu'il n'en a pas eu, que les conséquences n'ont pas été toutes négatives pour Bayrou, puisque c'est probablement à partir de ce moment-là que sa campagne a commencé à percer, qu'il avait des résultats assez médiocres, pour autant que les sondages signifient quelque chose, et qu'après cette intervention, les gens se sont dit, tiens, il a un certain courage de mettre en cause à TF1, dans le journal de 20h, les liens entre TF1 et le pouvoir politique représenté à l'époque par Nicolas Sarkozy. Et il est certain que plusieurs d'entre nous, nous avons regretté que ce ne soit pas un candidat plus à gauche que François Bayrou qui ait ce courage, mais le fait est qu'il l'a eu.
Est-ce que vous n'allez pas vous couper de cette majorité élargie, j'allais dire donc par exemple à l'UMP, en critiquant, comme vous l'avez fait aujourd'hui, assez violemment, Nicolas Sarkozy ?
TF1, 2 septembre 2006.
Je ne critique pas Nicolas Sarkozy en rappelant la proximité qui est la sienne avec des responsables économiques extrêmement puissants. C'est une proximité qui est affichée, assumée et même étalée dans les journaux, comme vous le savez.
Ça n'empêche pas.
Eh bien, je considère pour moi, Claire Chazal, que l'argent et la politique doivent être séparés. Je pense que l'un ne doit pas avoir base sur l'autre. Notamment lorsque ces puissances économiques détiennent de très grands médias.
C'est une accusation extrêmement violente qu'il faudrait, j'allais dire, étayer par des choses concrètes. L'amitié ne signifie pas forcément une prise de position ou des concessions sur l'idéologie et les idées politiques.
Je comprends très bien, Claire Chazal, que vous défendiez. Je comprends très bien que vous défendiez cette thèse précisément sur votre antenne.
En tous les cas, ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas handicapé sa carrière. Donc, amis politiques qui nous écoutaient, écrivains, artistes, économistes qui est appelé sur les plateaux de télévision, n'hésitez pas à critiquer ceux qui vous posent des questions et le système qui est derrière. Vous ne souffrirez pas forcément de représailles. Il suffit d'essayer, on verra ce que ça donne dans les mois et les années qui viennent.
C'est pour ça que j'ai fait un petit sondage là, de savoir tous ces experts qu'on a dénoncés, les Daniel Cohen, Christian de Boissieu, Alain Minc. Il y a un extrait de tout un passage dans le film d'une émission de Minc avec d'abord Christian de Boissieu, économiste, Daniel Cohen, économiste, en janvier 2008 et en juin 2008, pour leur raconter ça, où coup sur coup, ils annoncent que la crise est fini, qu'il n'y aura pas de crise, que le système est très bien géré. Et en juin 2008, Daniel Cohen, qui est présenté comme le meilleur économiste de France par Alain Minc, dit que le risque systémique est fini. Trois mois après, tout s'écroule. C'est extraordinaire comment ils peuvent se planter. Et on a démontré que ces économistes qui se plantent d'une façon aussi importante, qui se trompent, sont passés encore plus dans les médias derrière. Comparé à Jean Gadret et Lordon. Alors je me suis amusé, puisque effectivement, il faut toujours aussi porter le fer là où on se trouve, de regarder comment ces experts sont passés à Radio France depuis septembre 2008 jusqu'à octobre 2011. Alors rassurez-vous, ils passent beaucoup plus quand même dans les télés privées concurrentes. Par exemple, Christian de Boissieu, c'est le chouchou de BFM, 71 passages durant cette période sur BFM, Jean Gadret et Lordon, 0. Mais sur France Inter, 11, et sur France Culture, 8, ce qui fait 19 fois. Alors, ce Christian de Boissieu qui dit n'importe quoi est encore passé 19 fois sur Radio France. Jean-Hervé Lorenzi, qui est le chouchou, lui, de Radio Classique, 61 passages. Lordon et Gadret, 0. France Inter, 19. France Culture, 17. Et donc, c'est important. Et en fait, donc ça fait 36 fois de passage. Eli Cohen, France Inter, 8. France Culture, 10, etc. Alors, effectivement, Frédéric Lordon, quand même, 20 fois. France Inter 15, mais 13 fois là-bas si j'y suis. Donc ça fait plus que 2 fois ailleurs et 5 France Culture. Donc si on enlève là-bas si j'y suis, ça fait plus que 7. Donc c'est nettement moins que Lorenzi et que De Boissieu et que Minc. Jean Gadret, lui, c'est 2 France Inter et 4 Culture, ça fait 6 fois.
J'essaierai de faire mieux la prochaine fois.
Ashkenazi, France Inter 2, les hétérodoxes, France Culture 6. Thomas Coutreau, France Inter 6, France Culture 0. Et voilà, donc vous voyez, j'ai fait mes petits calculs. Alors, même si effectivement le service public permet à certains de passer d'une façon plus importante, parce que Gadret et Lordan à Europe 1, à RTL, c'est zéro pointé, hein, je veux dire. Mais il y a quand même, on voit là une prégnance hein, de ces économistes qui squattent une majorité de médias et d'une façon importante, en tout cas beaucoup plus, de façon beaucoup plus importante que d'autres, qui souvent se sont pas trompés, alors que souvent eux se sont trompés.
Mais ceux qui ne squattent pas, peut-être ne squattent pas aussi parce qu'ils ont envie de continuer à faire leur travail d'économiste et que leur profession à plein temps, ce n'est pas de passer dans les médias pour accroître leur notoriété.
Alain Minc est l'archétype même du premier de la classe.
Cet expert extraordinaire conseille en effet aussi bien les grands patrons que les ministres et les chefs d'État. Dans les médias, il est à la fois sur scène et dans les coulisses. En 2005, son ami Vincent Bolloré, ami de son ami Nicolas Sarkozy, lui a offert une émission sur sa toute nouvelle chaîne, Direct 8.
Bonsoir, bonne année à tous. J'espère que
nous sommes le 5 janvier 2008. Alain Minc a comme invité l'incontournable Christian de Boissieu. Tous deux s'entretiennent sur les prémices de la crise américaine des subprimes, qui, rappelons-le, conduira 9 mois plus tard à l'écroulement dramatique des marchés financiers de l'automne 2008.
On nous aurait dit qu'au fond, le système financier serait régulé avec un doigté tel. C'est quand même, je veux dire, un univers qui est finalement, sans qu'il y ait d'organes apparents de régulation, très bien régulé. Et l'économie mondiale est plutôt bien gérée.
Et justement là-dessus,
c'est du Minc grand cru.
Frédéric Lordon.
Et là, il est en grande forme. Hein. Il a plus que les prodromes de la crise du siècle. Hein. On est au-delà des signes avant-coureurs. Hein. C'est le propre de tout ce qui s'est passé avec cette crise. Elle a pris à revers tous ces gens qui, pendant 20 ans, ont certifié que la déréglementation était le meilleur des systèmes.
6 mois plus tard, le 7 juin 2008, Alain Minc fait à nouveau preuve du même optimisme. Il invite un autre expert, Daniel Cohen, à la fois éditorialiste au Monde et conseiller à la Banque Lazare. Le 7 juin, c'est, rappelons-le, 3 mois avant le krach de septembre 2008.
Le meilleur économiste français à mes yeux, c'est l'occasion d'avoir un diagnostic sur un moment économique un peu particulier.
Et tu disais, je crois très justement que, d'une certaine façon, la crise financière, encore que ce ne soit pas du tout fini, mais la crise financière est a priori passée, c'est-à-dire le risque plus exactement
le risque
que la
de
crise...
grand dérapage.
Voilà, le risque que la crise financière dérape en crise systémique où les banques tomberaient comme des dominos, ça semble écarté.
Effectivement, il y a une constance dans l'erreur qui est accompagnée d'une constance similaire dans l'indulgence. Et on se demande s'il faudrait qu'ils disent pour qu'un jour, un média finisse par considérer que, écoute, là, vieux, tu es gentil, mais tu vois, tu te rends bien compte, c'est plus possible, on va plus pouvoir te faire venir.
Gilles Balbastre.
Je voulais juste dire là-dessus, c'est que la plupart de ces économistes-là qui passent constamment monnaie, il faut le dire, leur conférence entre 6, 8 000, voire 20 000 euros. Jacques Attali est passé récemment dans une grande messe qui a été faite par la mairie de Nantes, enfin la communauté urbaine de Nantes avec Veolia. Il est passé pour une conférence, 20 000 euros la conférence. Ça leur rapporte, ils vendent leur notoriété médiatique en monnayant des conférences et encore une fois en vendant leurs livres. Et il faut voir le niveau de leurs propos. Juste quelque chose qui est assez savoureux, c'est un sociologue qui s'appelle Jean Viard. Alors Jean Viard, c'est un sacré personnage, parce qu'on le voit de plus en plus, c'est le sociologue du temps libre. Alors il adore, il est très aimé du reste par France Inter et notamment par le téléphone sonne. C'est-à-dire il passe énormément. C'est un élu socialiste, hein, il est élu au conseil municipal de Marseille et il est chroniqueur au JDD. Et alors là, le JDD du 1er janvier publie son classement des célébrités. Alors on apprend d'une façon intéressante que Omar Sy, hein, la vedette de Intouchable, est troisième. Vous voyez, c'est donc une information très très intéressante. Et Jean Viard chronique là-dessus et est invité par exemple sur France Info pour commenter effectivement ce classement. Et voilà ce qu'il dit. Hein. Dans le récit français, on a besoin de sentiments, d'affection. On ne cherche pas forcément des gagnants, mais au fond des gens avec qui on aimerait déjeuner. C'est le cas de Dany Boon ou Omar Sy. Face aux crises, aux catastrophes, les Français ont un désir profond d'affection et de fraternité. C'est formidable, ce gars-là est directeur de recherche au CNRS, a un bac plus 10, et il faut un bac plus 10 pour écrire des conneries pareilles, voyez. Donc ça rend l'intelligence, le niveau universitaire très très bien. Et bien sûr, à la fin, il y a « Vient de publier Nouveau portrait de la France », édition de l'Aube, cling cling, monnaie. Et dans à France Info, le présentateur, quand il invite le dimanche premier pour commenter ce genre d'informations importantes, il cite en premier son livre. Hein, il dit en premier son livre et il termine en disant « Je rappelle, Jean Viard a écrit ce livre ». Voilà. Et Jean Viard dit « Merci ». Et il dit merci pourquoi ? Parce qu'on l'a invité pour raconter quelque chose d'intelligent ou parce qu'il sait que deux citations pour son livre dans France Info, c'est une sacrée publicité qui vont lui permettre de rapporter un peu plus de droits d'auteur. Voilà où en est le système. Ça s'appelle la corruption.
Enfin, il n'est pas évident que sur la base de ces déclarations peu fracassantes, ils vendent beaucoup de livres. Il faut tout de même évoquer le fait que très souvent, la promotion ne marche pas.
Ça, c'est vrai.
Récemment, Bernard-Henri Lévy a fait un livre de plus sur la Libye. Il a disparu des classements au bout de deux semaines. C'est un échec total et c'est probablement un facteur de tourment pour son éditeur qui a dû faire une impression considérable et qui se retrouve avec des tonnes d'invendus dont il ne sait plus quoi faire.
Prenons un Français moyen, Monsieur Lambert. Chaque matin, Monsieur Lambert se réveille au son d'Europe 1, la principale radio du groupe Lagardère. Mais il peut très bien choisir d'écouter Radio Classique, la radio du groupe LVMH. Sur le chemin du travail, Monsieur Lambert peut acheter son journal dans l'un des 1000 points de vente du groupe Lagardère. Mais il peut aussi préférer un gratuit du groupe Bolloré. Au bureau, la collègue de M. Lambert peut s'informer en surfant sur un site du groupe Lagardère ou en feuilletant un magazine du groupe Lagardère. Mais M. Lambert, lui, peut lire le quotidien du groupe Dassault. En rentrant chez lui, M. Lambert peut acheter l'un des 20 magazines du groupe Lagardère. Mais il peut très bien choisir un magazine du groupe Pinault Printemps La Redoute. À la maison, M. Lambert peut zapper sur l'une des 8 chaînes du groupe Lagardère. Mais il peut aussi regarder le 20h de TF1 du groupe Bouygues. Pour ces groupes, tous liés à des marchés publics, vendre de l'information a un double intérêt. Disposer d'un levier politique évident et faire des profits.
Les nouveaux chiens de garde, le film qui sort mercredi. Il y a un passage intéressant dans ce film, parmi d'autres, c'est le recours à l'étranger pour comparer, pour justifier, on va voir comment font nos voisins. Et là, il y a un passage particulièrement passionnant sur l'Angleterre. L'Angleterre comme modèle, le modèle anglais. Et on a un certain Thierry Tullier qui est véritablement l'évangéliste des marchés et qui explique pourquoi il faut s'inspirer de l'Angleterre, pourquoi ça doit être notre modèle et à quel point nous habitons, nous autres Français, un pays arriéré, poussiéreux, avec ses charges sociales et toutes ces choses-là. Et on voit un personnage qui apparaît, qui s'appelle, je ne connaissais pas du tout ce monsieur, Sir Michael Marmotte, qui fait un rapprochement. Parce que dans tout ce qu'on raconte là, on dit, bon ben voilà, tous ces gens-là font ce qu'ils veulent, il n'y a qu'à pas les écouter, vous n'avez qu'à tourner le bouton, etc. Mais ce que dit le sieur Michael Marmotte, c'est qu'il y a un détriment. Il y a un détriment. C'est-à-dire que ces enrichissements, cette volonté, ces militants des inégalités que sont, par exemple, ce Thierry Tullier, entraînent des détriments lourds, graves, voire mortels sur les populations. Et il explique les inégalités de durée de vie selon qu'on appartient à une classe ou à une autre dans son pays. C'est ce que vous dites, Jean Gadret, en disant que tout ça, bon, voilà, c'est pas seulement une bataille d'idées sans conséquences et de coups d'éventail qu'on se mettrait comme ça à travers la figure en s'amusant. C'est que dans tout ça, il y a des conséquences lourdes pour un corps social entier et pour une partie du corps social.
Oui, je pense que même si ce ne sont pas les experts économistes qui prennent eux-mêmes les décisions politiques, le rôle qu'ils ont aujourd'hui comme conseillers du prince fait que, je n'irai pas jusqu'à dire comme Gilles Balbastre qu'ils ont du sang sur les mains, mais que dans la dégradation de la vie de peuples entiers, ils portent une lourde responsabilité et qu'ils devraient être, sinon jugés, en tout cas évalués par les citoyens pour cela. La façon dont aujourd'hui la Grèce s'enfonce dans la crise et le peuple grec souffre, la façon dont les suicides s'y développent et dont la santé se dégrade, dont la vie des gens se dégrade, tient pour partie au remède des médecins de l'économie, au remède des économistes de Goldman Sachs devenus patron de la Banque Centrale Européenne, président ou dirigeant de la Grèce, de l'Italie ou de l'Espagne. Nous avons, en tant qu'économistes, une énorme responsabilité. C'est pour ça que nous devons, nous, économistes hétérodoxes, continuer à mener la bataille.
Si je peux ajouter, dans la séquence là où on voit ce Sœur Marmotte, qui a été une séquence conçue par Renaud Lambert, on voit Marmotte qui explique que l'écart d'espérance de vie entre les quartiers riches de Glasgow et les quartiers pauvres de Glasgow est de 28 ans. Et que l'espérance de vie dans les quartiers pauvres de Glasgow est inférieure à celle que connaissent les habitants du Bangladesh. Et il dit, il est quand même extraordinaire que dans une société aussi riche que la nôtre, où il n'y a pas de grandes épidémies, où le niveau de santé est satisfaisant, pour les plus pauvres, l'espérance de vie soit inférieure à celle des Bangladais. Et Il est évidemment très intéressant d'entendre ça parce que ce Sœur Marmotte, qui a fait un rapport dont on a parlé dans la presse spécialisée à l'époque, est très rarement interrogé pour évoquer le modèle britannique qui, à l'époque, faisait les gorges chaudes de Christine O'Krent, des autres, qui n'avaient Dieu que pour ce modèle britannique qui nous montrait comment, quand un pays renonçait à ses archaïsmes, décidait de privatiser, etc., tout était merveilleux. On sait ce qu'il en est du modèle britannique aujourd'hui.
C'est pour ça que depuis, ils nous servent le modèle allemand.
Voilà, et ces mêmes experts, ces mêmes chiens de garde, ont vanté aussi le modèle irlandais, hein, et on a vu ce que ça donnait, le modèle espagnol, et on a vu ce que ça donnait. Et quand ils vantaient, par exemple, le modèle irlandais, le taux de pauvreté était de 25%. Vous vous rendez compte? En même temps, ils vantaient ce modèle. Actuellement, ils vantent le modèle allemand, le taux de pauvreté en Allemagne est de 15 à 16%. Il augmente de plus en plus. Le chiffre du chômage est tombé en Allemagne, étant le plus bas, formidable, l'Allemagne marche, alors que tous les petits boulots sont pas pris en compte dans les chiffres du chômage. Enfin, la situation allemande est dure pour les salariés allemands. Et ils continuent de vanter ce modèle-là maintenant, comme ils ont vanté le modèle anglais, le modèle irlandais, le modèle espagnol. Ça pose vraiment problème.
Bonsoir. Pourquoi on ne peut pas réformer en France alors que tous les pays réforment autour de nous? C'est le thème de Culture et Indépendance ce soir.
Peut-on engager des réformes en France? La France peut-elle s'en passer à l'heure de la mondialisation?
Comment convaincre les Français du changement ou de la réforme?
Vous accepteriez quand même une réforme? Parce que ce que tout le monde dit, c'est que quand on nous
parle de la réforme... J'essaie de comprendre, effectivement, c'est la difficulté de ce pays à faire des réformes.
Pourquoi? Pourquoi ça passe pas? Eh bien, qu'est-ce qui fait que dans ce pays, ça ne passe pas?
L'opinion commence à comprendre qu'on ne retrouvera pas le chemin de la croissance sans renoncer à certains avantages acquis et à certaines rentes de situation.
Je trouve que dans le passé récent, nous avons plutôt malgré tout pris des retards dans la question de la réforme.
C'est ça qui est très inquiétant aujourd'hui. On ne peut pas annoncer aux Français toute une série de réformes difficiles mais nécessaires.
On est au bout d'un cycle, au bout d'un système. Ça leur fait peur. Et ils ne veulent pas de changement. Est-ce que les Français sont devenus aujourd'hui hyper conservateurs?
Et naturellement, ils rejettent tout, c'est la peur du changement.
Les peurs, c'est pas seulement de perdre les droits acquis, c'est pas seulement de perdre ce qu'on a, c'est la peur que quoi que ce soit change.
Mais depuis quand même la crise de 2008, et qui se continue aujourd'hui après quelques mues, on peut dire, mais qui continue bel et bien, on entend quand même un autre ton, une autre musique, qui est de dire oui, il faut échapper à cette dictature de la finance, il faut réfléchir à cette mondialisation, il faut taxer les revenus financiers, etc. On sent
oui,
le président de la République française, mon cher Serge, à chaque fois ne manque pas de dire qu'il faut taxer.
Il me semble qu'on entend surtout, effectivement, il faut échapper à cette dictature des marchés financiers. En réduisant nos dettes, l'État, c'est comme une famille qui doit rembourser ses dettes. C'est ça que j'entends plutôt comme discours dominant, alors même que cette métaphore est complètement stupide. L'État n'est pas une famille. L'État peut augmenter ses revenus en augmentant les impôts. Une famille ne peut pas décider d'augmenter ses salaires parce qu'elle en a envie. Les États n'ont pas toujours remboursé leurs dettes. L'Allemagne avait une dette qui était l'équivalent de 800% du PNB en 1920, qu'elle n'a pas remboursée. Le Royaume-Uni avait une dette de 220% au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cette dette s'est réduite d'un tiers sans qu'il y ait de plan d'austérité. Et au contraire, à l'époque même, il y a eu un plan de relance keynésien, puisque Keynes était l'inspirateur de ces politiques. Et Keynes a proposé ces politiques au Royaume-Uni, alors même que le niveau d'endettement du Royaume-Uni à l'époque était supérieur au niveau d'endettement de tous les pays riches aujourd'hui, à l'exception du Japon. Bon, mais ça, ce sont des données que vous entendez si souvent dans la radio. Moi, à la radio, à la télévision, moi, j'entends davantage Apathy, El Kabash et les autres qui disent « Oui, mais ce que vous proposez, c'est des dépenses supplémentaires. Or, il faut réduire les dettes. Comment on va réduire la dette ? Comment on va réduire la dette ?» Ces politiques qui nous ont conduites à des plans d'austérité et à la crise que nous connaissons et qui s'aggrave et qui provoque la flambée du chômage que vient d'évoquer Gilles Balbastre.
Si on sort de l'euro, la dette française est libellée en euros. Comment on rembourse ?
Jean-Pierre El Kabash.
Et en francs, la dette sera plus chère qu'en euros. Et si on ne peut pas rembourser, personne ne lui prêtera. Comment vous remplissez les devoirs de la France et comment la France paye-t-elle ses fonctionnaires ?
Il ne s'agit plus de dépenser.
Jean-Michel Apathy.
Mais il a fallu la pression des marchés financiers, hélas, parce que quand même, ça aurait pu être dit avant que la dette était un problème. L'Espagne, l'Italie, l'Irlande, le Portugal, la Grèce, on n'en parle même pas, font des efforts beaucoup plus importants. La France est l'un des pays où il y a le plus de dépenses publiques, il y en a trop.
On est au seuil d'une campagne électorale qui va être passionnante. Mon cher Serge, et on va avoir une opposition qui va aller dans le sens que vous souhaitez.
Précisément sur cette question de la dette, le programme de Nicolas, en tout cas sur l'objectif de réduction de la dette, le programme de Nicolas Sarkozy et le programme de François Hollande sont rigoureusement identiques.
Absolument.
Ils ont les mêmes objectifs l'un et l'autre, la réduction de la dette à 3% du PNB en 2013 et son élimination en 2017. Après, ils divergent quant aux moyens d'obtenir ce résultat, mais sur ce résultat qu'on peut contester et qu'à mon sens on doit contester, il y a un accord total entre les deux principaux candidats, en tout cas ceux qui se partagent l'essentiel de l'espace médiatique.
Même si journalistes et experts s'entendent sur l'essentiel, il faut quand même conserver les apparences du débat démocratique.
RTL Matin.
Et on vous attend au 32-10 pour intervenir dans ce match du jeudi pour nous dire si...
Les médias mettent ainsi en scène régulièrement des joutes acharnées entre débatteurs que tout oppose. Dans cette émission de LCI, par exemple, c'est un intellectuel de gauche, Jacques Julliard, qui chaque semaine affronte Luc Ferry, un philosophe de droite. Attention, la violence des échanges est insoutenable.
Hélas, hélas, Luc, je n'arrive pas à être en désaccord avec ce que vous venez de dire. J'aimerais bien...
Moi, j'irais dans l'autre sens, et je pense que sur ce point, vous serez d'accord avec moi, comme je suis d'accord avec vous sur l'autre.
Comme vous, je me réjouis du poids de cette opinion publique.
Je suis d'accord avec ce qu'a dit Jacques.
Je trouve que Luc a parfaitement raison.
Il faut expliquer, il faut faire comprendre le problème de la mondialisation.
Vous êtes en train de dire
le troisième point. Mais j'allais le dire sur la rigueur, je suis hélas d'accord avec vous.
Et vous avez raison. Sur ce point, il n'y aura pas de débat très vif entre Luc et moi.
Non, encore une fois, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jacques. Il fallait faire d'abord le traité constitutionnel et puis l'élargissement après.
Vous me rendrez cette justice, Luc, que je dis la même chose que vous, non pas avec l'autorité d'un ministre, mais que j'ai toujours pensé cela.
Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jacques, à ceci près que, bon, d'ailleurs, Vous avez ouvert un petit parapluie. Je ne mettrai pas le libéralisme et le communisme sur le même plan, mais peu importe.
Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous.
Mais on a besoin aussi, et là, je ne pense pas d'ailleurs que Jacques, vous soyez en désaccord avec moi, mais je pense que c'est encore plus difficile et plus urgent.
On nous dit qu'on est trop en désaccord, s'inquiète même sur nos relations. J'espère que... Voilà. Non, je signale qu'elles sont excellentes. Et cette semaine, nous sommes entièrement d'accord et nous n'en avons aucun scrupule.
On a entendu Michel Naudy au fond de son lit, là-bas en Ariège.
Oui,
au fond de son placard, qu'il y a quelque chose à dire.
Oui, parce que... Et je voudrais dire deux choses, parce qu'il me semble que... On ne peut pas être exhaustif, bien sûr, mais il me semble que la responsabilité de la social-démocratie dans l'affaissement des médias, c'est-à-dire son ralliement à la logique financière, a joué un rôle considérable dans l'abattardissement de l'information dans ce pays. J'en veux pour preuve plusieurs éléments. Il m'a semblé, du point de vue où j'étais, donc à l'intérieur de la 3, que l'arrivée de Jospin, lors de la cohabitation, l'arrivée de Jospin a correspondu exactement à la renonciation des socialistes. Je pense que l'affaire monte à 83. 83, la gauche n'est plus de gauche, elle adopte les principes de M. Delors. Mais il a fallu du temps pour que les choses se réalisent. J'ai eu le sentiment que le PS ne voulait plus mener de bataille idéologique sur la question des médias pour l'excellente raison qui vient d'être évoquée très pertinemment, que sur le fond, il n'y a pas de différence entre les deux. Et regardez, un nom vient d'être prononcé, celui de Jean-Michel Apathy, chroniqueur politique à RTL. Savez-vous où ce garçon a-t-il commencé sa carrière de journaliste? Ben vous ne le savez pas. Donc je vais vous le dire. Je l'ai recruté comme journaliste politique à Politis.
Eh ben dis donc.
Journal très à gauche. Oui, je sais, c'est pas la meilleure des choses que j'ai faites.
Tu l'as dit.
Savez-vous où a commencé sa carrière politique, Monsieur Adler?
À l'Humanité.
Alexandre.
À l'Humanité.
Parti communiste.
Oui, oui.
Il était prof à l'école normale de Lille, prof communiste. C'est dire aussi comment...
Sans parler de Michel Field.
La capacité d'absorption des élites de gauche, entre guillemets, par l'idéologie dominante. Mais de ce point de vue, la renonciation par Jospin et ses amis à mener une véritable politique d'ouverture pluraliste à la télévision et à la radio... de mon point de vue, est une responsabilité majeure. Et il ne faudrait pas aujourd'hui tirer de cette conversation que nous avons fort agréable des conclusions qui seraient par trop parcellaires. J'ajoute, que ce que nous disons là pourrait paraître comme des propos qui vont concerner confidentiellement les Français. Ce n'est pas vrai. Le 9 décembre, Tarascon-sur-Ariège, 3000 habitants, 150 personnes sont venues discuter devant le film de Kergoat et de Balbastre. C'est ainsi qu'il faut envisager les choses. Il faut faire du contournement.
Oui, si je peux...
A gagné la bataille idéologique avant de gagner la bataille politique. Excusez-moi de cet archaïsme, je suis gramscien. Je pense que les esprits, il faut les conquérir un à un désormais, que c'est notre tâche, notamment sur les questions du pluralisme de l'information.
Jean Gadret.
Oui, pour tenir un propos qui n'a strictement rien à voir avec ma profession d'économiste retraité, mais il me semble que si on fait le, on arrive au bout de cette émission et on pourrait ressentir une énorme déprime. Puisque le constat a été fait à de multiples reprises, qu'on était largement battu, archi-battu, sur tous les plans, ultra-dominé. Or, moi, je pense qu'il faut voir les choses de façon un peu plus contradictoire et que, depuis les débuts de cette crise, les idées de rupture avec les lois des marchés, avec la valeur pour l'actionnaire, avec la domination de l'économie néolibérale, ces idées, elles, selon toute une série d'indices, à commencer par la participation au débat public et citoyen, à la vitalité associative autour de ces questions, ces idées sont en nette progression et je n'ai pas personnellement d'autres motifs d'espoir.
Oui, mais moi, ce que je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est la démonstration est faite que le système ne changera pas de l'intérieur, le système médiatique ne changera pas de l'intérieur. En même temps, à mesure qu'il ne change pas, qu'il se caricature, comme on l'a évoqué à travers les exemples de Dassault et d'autres, les autres, ceux qui sont en quelque sorte les témoins, les spectateurs, les auditeurs de ce système, perdent confiance, ne croient plus ce qu'on leur dit. Et cette crise de confiance est évidemment quelque chose que nous devons encourager, mais qui est réel.
Je voulais dire, quand même,
Gilles Balbastre, pour finir,
que le film, effectivement, on a l'impression peut-être que, au fond, on sort plombé de ce film. C'est pas le cas. C'est un film qui a pas mal
plombé
d'humour.
Ou plombé.
Plombé, non, plombé. Et que c'est un film, et on sort de ce film avec la pêche, parce que le film est sur.
On a bien rigolé tout le long. Quand
voilà,
même,
c'est un mode Sardon. On démontre que ce sont aussi des bouffons et qu'on peut leur filer des petites baffes pour les faire tomber de leur piédestal. Et que du coup. Ce film, je sais que les avant-premières qui sont passées, et Michel était là à Tarascon, il nous a fait venir, les 150 personnes sont restées jusqu'à minuit et on les a chassées parce qu'ils voulaient rester, continuer à débattre, parce qu'effectivement, pour des citoyens, il y a une phrase, je vais vous dire, qui est importante et qui a été dite à Toulouse lors d'une avant-première à Utopia. C'est une personne, je crois qu'elle était une magistrate ou une enseignante, qui a dit « On nous a volé l'espace public ». Voilà. Vous nous démontrez qu'on nous a volé l'espace public et que c'est ces bouffons-là qui nous ont volé l'espace public. Et qu'une démocratie, c'est de pouvoir parler sur l'espace public de ce qu'on veut et de pas ce qu'ils ont décidé de parler. Voilà. Et le film démontre qu'il va falloir virer ceux qui nous ont volé l'espace public et qu'on a le droit de reconquérir cet espace public pour parler de ce qu'on veut, parce qu'on a aussi, comment dirais-je, des qualités professionnelles pour parler de ce qu'on veut aussi. Voilà. On a des expertises. On est des experts de ce qu'on dit aussi, parce qu'on vit au jour le jour dans des tas de situations, magistrats, enseignants, économistes, ouvrier, voilà. Donc ce film-là est un film de pêche qui donne envie d'aller se battre.
Voilà l'image de deux hommes heureux, Armel Lecléache et Nicolas Sarkozy, vainqueurs de la Transat Lorient-Saint-Barth en un peu plus de 20 jours. Football, le titre s'éloigne pour Nicolas Sarkozy. Lourde défaite hier à Bordeaux, 3-0 et deux pénaltys ratés côté Sarkozy. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nicolas Sarkozy, 21h Sarkozy, avec un rôle inattendu pour Anthony Sarkozy. 1h15, dernier journal, Nicolas Sarkozy. 1h35, des mots de minuit, Nicolas Sarkozy. Dès 6h30, télématin. Les quatre vérités, Nicolas Sarkozy recevra Nicolas Sarkozy. On se quitte sur ces images de Nicolas Sarkozy avec les marmottes en prime. Sarkozy peut atteindre 11 mètres de haut par endroit. Très bonne soirée.
Merci à toutes et à tous. Vous avez compris, le film sort donc ce mercredi prochain. Il y a des projections un peu partout. À suivre sur le site du film Les Nouveaux Chiens de Garde, tout attaché, lesnouveauxchiensdegarde.com. Vous aurez les programmes, les avant-premières et quand le film passera dans votre secteur. Merci à Gilles Balbastre, Serge Halimi, Michel Naudy au fond de son lit et de son placard et Jean Gadret. Aux éditions Raison d'agir, pas mal de relire ou de lire ou de découvrir sur la télévision de Pierre Bourdieu. Et puis bien sûr le bouquin de Serge Halimi et le livre de Paul Nizan, Les Chiens de Garde, qui est disponible aux éditions Agone. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, et sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous avez beaucoup d'émissions que vous pouvez réécouter. Il y a 1600 émissions que vous pouvez écouter, donc de quoi occuper votre week-end. Et puis vous